Ah, c'est toujours Cyrus, je suis toujours au Bruxelles Game Festival. Je suis en compagnie de Philippe Roux des éditions Ludardenne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es dans le milieu du jeu de société avec ta société Ludardenne?
Ah ben, ça fait juste 10 ans. 10 ans au mois de juillet 2006.
Un joyeux anniversaire déjà pour commencer. C'est beau, 10 ans. Alors tu as une démarche assez singulière dans le milieu du jeu de société. Tu es quelqu'un qui est là effectivement depuis 2006, donc ça commence à faire un moment que tu roules ta bosse dans le milieu du jeu, avec des jeux qui ont la singularité d'être tous des jeux abstraits.
Abstraits et en bois.
Voilà, des jeux en bois, avec une démarche qui est que je trouve moi très intéressante. C'est une démarche de production locale. C'est bien ça?
Production locale, oui. J'essaye de faire le maximum de fabrication française, sauf lorsqu'on ne peut pas le faire.
On en parlera un petit peu après. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, on va essayer de retracer un petit peu ton parcours. Alors le premier jeu, si je ne dis pas de bêtises, c'est Tasso, c'est bien ça?
Premier jeu édité, c'est Tasso.
Ouais, alors un jeu très malin. Alors bon, tous les jeux sont malins chez Ludardenne. Voilà, donc je vais peut-être dire ça à chaque fois. Je m'en excuse d'avance. Donc Tasso, en fait, c'est très simple. On a un petit plateau qui est rond, avec tous un certain nombre de tasseaux, voilà, c'est le cas de le dire, des petits morceaux de bois, et en fait il va falloir essayer de les placer tous sur le plateau, c'est bien ça?
Donc il faut placer le plus rapidement possible donc, tous ces petits bouts de bois, et pour pouvoir rejouer, donc gagner, il faut les superposer sur deux autres, qui n'en supportent pas déjà, hein. C'est ça le problème, mais c'est beaucoup plus vicieux que la règle peut laisser penser.
Voilà, en fait, alors c'est justement la particularité de ces jeux Ludardenne, c'est qu'ils sont hyper malins. Il y a toujours un twist en fait dans le principe, dans la mécanique. C'est-à-dire que quand on explique, c'est très compliqué de se dire ok, en fait, il faut faire quoi, je comprends pas. Donc les tasseaux, il faut mettre chacun son tour, on pose un tasseau. C'est très simple en fait. Hein. Chacun son tour, on pose une pièce de bois sur le plateau. Elles sont toutes pareilles les pièces. Et effectivement, on a la possibilité de rejouer. C'est ce qui fait gagner en fait. Simplement, il faut réussir à rejouer puisque le but du jeu est de se débarrasser de toutes ces pièces. Donc il faut aussi éviter que les autres rejouent. Et c'est surtout ça qui n'est pas forcément évident. Alors ça, c'était le tout premier jeu. Le deuxième jeu que tu as édité, c'était quoi?
C'était Mokadi. Oh, c'est pas une grande réussite. C'était un jeu basé plutôt sur l'équilibre. Bon, je ne vais pas le rééditer. J'ai terminé l'édition. Bon, on passe. Et le troisième jeu, c'était Totem. Un jeu plus mathématique avec des formes qu'il faut mettre sur des axes. Et le but du jeu, c'est à la fin de la partie, occuper le maximum des sommets des empilements. Bon, c'est beaucoup plus mathématique que Tasso. C'est autre chose.
Ouais, voilà, en fait, donc on a 5 pics, on va dire, et puis chacun a un ensemble de pièces, ça se joue qu'à deux, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il y en a un qui joue les blancs, l'autre joue les noirs, et donc effectivement, il faut occuper le maximum de ces pics à la fin de la partie. Et évidemment, encore un twist, c'est que quand on pose sa pièce sur une couleur, sur l'autre couleur, en fait, on doit rejouer. Et on est obligé. Alors, des fois, c'est intéressant, et des fois, ça l'est pas du tout, en fait. Et c'est là qu'il faut réussir à. Alors, des pièces, c'est aussi évidemment de différentes tailles. Qu'on peut emboîter dans un sens ou dans un autre. Enfin bon, là encore une fois, je vous invite à regarder. Et puis surtout, en fait, c'est des jeux qu'il faut essayer. En fait, je pense que c'est un peu le pitch de chaque jeu. Bah, essayez-le et regardez un peu si ça vous plaît, parce que c'est il y a qu'en essayant en fait qu'on comprend la subtilité de la mécanique. Alors dernièrement, il y a eu Nivos aussi, c'est bien ça?
Voilà, avant, il y a eu Tonneau. C'est un jeu de mémoire, des petits tonneaux qu'on met dans des grands. Et il faut se rappeler les couleurs. Après, il y a eu donc Nivos, des plaques qu'on empile en respectant un quadrillage du plateau, sans le mettre sur du vide et sans mettre deux pièces de la même couleur à côté l'une de l'autre. Mais en fait, le but, c'est pas tellement de placer ces pièces, c'est éviter de prendre des pénalités. Et les pénalités sont pas toutes équivalentes. Elles augmentent pendant la durée du jeu. Donc tout le système, c'est éviter de prendre les plus grosses, pour prendre les dernières. Donc on est obligé de prendre des pénalités, on peut pas faire autrement. Donc il faut essayer de prendre les plus petites et surtout pas prendre les dernières.
Alors moi j'ai essayé, j'ai refait une partie avec ma femme tout à l'heure. J'ai essayé, je me suis dit allez, alors je vais prendre les petites pénalités, sauf que je me suis aussi bouffé les plus grosses, donc voilà, bon bref, c'est pour la petite histoire, ça ne suffit pas de prendre les petites pénalités, il faut aussi réussir à éviter les plus grosses. Bref, voilà, enfin, moi je le trouve très très malin Nivos. Et alors là le tout dernier là, tu peux nous en parler? Alors c'est celui effectivement où on va expliquer un peu plus la démarche, Fakir.
Alors Fakir, c'est un jeu que j'ai fait pour un concours de Boulogne. J'ai été primé en 2010. On me le réclame depuis tout le temps, mais il coûte beaucoup trop cher à faire. J'ai jamais pu le faire en France. Donc je l'avais mis de côté, mais à force de m'entendre dire qu'il fallait que je l'édite, quelqu'un m'a proposé l'éditer, mais malheureusement, c'était pas en France, c'est en Chine. Donc ce jeu, je suis passé par Hartford Game, et qui me l'a fait en Chine. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Soit ce jeu, il reste dans un tiroir, personne ne le voit, soit on passe par ce système, et il sort à 25€, alors qu'il aurait été fait en France, j'aurais dû le vendre en boutique à 60€, et personne ne l'aurait acheté.
Ouais, voilà, alors c'est pour ça que je voulais en parler, parce que connaissant ta démarche, je comprends que ça a dû être quelque part un crève-cœur. Alors voilà, il y a la démarche économique d'un côté, il y a les démarches écologiques de l'autre. C'est difficile de trancher entre les deux. On comprend que évidemment, quand on a des convictions, c'est compliqué. Donc, tu as attendu 5 ans pour le sortir, enfin, voire 6. Alors, Fakir, en fait, pour essayer d'expliquer à nos auditeurs, alors je mettrai une photo pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais en fait, on a un parallélépipède rectangle. C'est bien ça, hein, la forme, je me trompe pas.
C'est ça, c'est un socle parallélépipédique troué de trous. Il y en a combien ? Il y en a 9 en haut. Et puis il y en a 18, je crois, sur les côtés. Et les tiges peuvent se placer dans les trois axes de l'espace. Et le but du jeu, c'est illuminer les tiges placées verticalement qui tombent dans le socle. Et à ce moment-là, ils sont illuminés. Et quand toutes ces tiges sont éliminées, on a perdu.
Et là aussi, alors je vous invite à essayer, à regarder les règles, parce qu'il y a évidemment un twist dans le jeu. Et alors oui, regardez la photo, vous verrez effectivement, ce parallélépipède, il est percé de part et d'autre en fait. Et la difficulté, alors tu nous l'avais expliqué, alors pour ne rien cacher à nos auditeurs, nous avions fait cette interview à Cannes. Seulement nous avons eu un petit problème technique, donc elle a été coupée. Je pense qu'on a fait une interview de 15 minutes qui a été coupée à 3 minutes. Donc voilà, frustré, je me suis dit il faut que je vienne réinterviewer Philippe pour qu'il nous l'explique. Donc tu m'avais déjà expliqué, on pouvait pas faire ça en France parce qu'on n'arrive pas à percer grosso modo de part et d'autre. Il faut faire percer d'un côté, de l'autre. Vraiment, ça demande des réglages assez fins. Tu peux nous réexpliquer un peu le pourquoi et du comment ?
Que ce soit fait en Chine ou en France ou ailleurs, la technique est difficile parce qu'il faut forer par des forêts de 6 mm de diamètre sur 13 cm. Et là, les forêts ont tendance à vriller, à tourner, à dévier. Donc, il faut en fait, sur les 13 cm, les forêts de chaque côté. Et il faut que les trous correspondent.
Voilà, bien sûr, parce que, il faut un moment que le personnage d'un côté rencontre le personnage de l'autre côté. Et c'est là que le bas blesse, en fait. C'est là que, du coup, on a besoin d'une main-d'œuvre pour bien régler, c'est ça ?
Ah, donc, c'est surtout, il faut donc percer de chaque côté, repercer après. Donc, ça fait énormément de manutention et c'est ce qui coûte cher. C'est le nombre de passages sur la machine. C'est ça qui coûte cher en France. Et c'est ça qui coûte pas cher en Chine. La matière première coûte plus cher en Chine qu'en France, mais la manœuvre coûte moins cher en Chine qu'en France.
Ah, c'est fou ça, parce que quand on entend ça, en plus la matière première, elle va coûter moins cher en France.
Oui, parce que le bois en Chine vient d'Europe.
Ah ouais, c'est fort. Donc en fait, pour la démarche écologique, pour le coup, c'est-à-dire qu'on envoie le bois en Chine. On produit en Chine, on ramène le jeu en France. Là, effectivement, là, quand on entend ça, ça fait un peu mal à nos cœurs d'écolo. Mais bon, voilà, quoi. C'est le seul moyen qu'on a pour obtenir ce jeu sans notable.
Bah, c'est la même chose pour les parquets. Hein.
Alors, je voulais parler aussi du design des boîtes. Alors, tous les jeux sont en bois. Et alors, moi, je trouve le design des boîtes absolument génial. On a des boîtes cartonnées, comment on appelle ça, gaufrées. Non ?
Oui, c'est du papier craft, voilà. Bon, comme mes jeux sont un peu particuliers, je voulais pas faire comme tout le monde, parce que faire une boîte comme tout le monde, personne ne la voit. Donc, je me suis dit, pour que ces boîtes soient reconnaissables, il fallait faire autre chose. Alors, j'ai fait ce genre de boîte. Malheureusement, ces boîtes sont pas commerciales. Les boutiques s'en plaignent, parce qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc depuis Fakir et puis la nouvelle édition de Nivos, j'ai rajouté autour de mes boîtes initiales un fourreau en carton où là il y a la photo, il y a l'explication et commercialement parlant, c'est beaucoup mieux.
Voilà, ouais. Alors pareil, je mettrai des photos, on essaiera de... On te prendra en photo là devant tes jeux, comme ça les gens auront un petit aperçu. Effectivement, donc les boîtes avant, elles étaient dans un carton, donc du coup il n'y a pas d'explication, on sait pas pour combien de joueurs c'est, on sait pas ce qu'il y a dedans, on a juste le titre du jeu qui est du coup en fait, comment on peut dire, en fait c'est écrit, en fait c'est le carton qui est troué, en fait, troué, et on voit par les lettres, quoi. En gros, c'est comme si on avait découpé les lettres dedans, et du coup on voit par un papier craft de couleur en dessous, on voit apparaître le nom du jeu. Moi je trouve ça super joli, c'est très très design. Et du coup bah, maintenant on a un petit sur-emballage par-dessus avec une photo, le titre, et puis derrière les explications un petit peu du jeu, les éléments, combien de joueurs, etc., etc. Tu voulais dire quelque chose, pardon?
Mais la boîte en carton existe toujours en dessous.
Voilà, et ça c'est important. Et je trouve ça bien que tu aies gardé quand même la boîte en carton en dessous, qui fait que quand on l'aura déballée, on aura bien cette boîte chez nous, avec ce joli design que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et puis avec un bel effet de gamme au final. Alors bon, évidemment, on n'a pas les boîtes toutes de la même taille, hein, et là, et ça, il y a peut-être des joueurs qui diront, alors celle-là, je vais la ranger comment dans mon étagère, mais voilà, mais c'est vraiment chouette quand même.
Non, mais je pense que c'est normal. Les jeux sont différents. Avec le bois, on peut pas le compresser. Hein. Un fakir, c'est à 13 cm d'épaisseur, 6 cm d'épaisseur. Le bloc, on peut pas le ranger dans une boîte de 3 cm d'épaisseur. C'est pas possible.
Voilà, et puis on va pas faire des boîtes non plus deux fois plus grosses que tous les jeux pour mettre du vide dedans, et puis histoire d'avoir une boîte toute de la même taille. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je te défends tout à fait là-dessus. On a eu quelques discussions récemment sur Twitter sur les tailles de boîtes avec des boîtes remplies de vide. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui préféraient. Alors c'est difficile de nos jours, hein, parce qu'il y a, ce qu'on appelle le facing en boutique, c'est-à-dire qu'il faut que le jeu se voit, donc il faut qu'il fasse une certaine taille, il faut voilà, que l'illustration soit belle en couverture. Et il faut que la boîte elle fasse une certaine taille pour qu'elle soit visible, et puis parce que la taille correspond à un prix de jeu. Donc voilà, dans l'esprit des joueurs, voilà, une boîte de 45 sur 45 cm, c'est 40 ou 50 €. Et voilà quoi, c'est comme ça que ça marche en fait. Et voilà, on va pas. Ce serait dommage de continuer là-dedans, enfin de rester dans cet esprit-là, et de se retrouver avec des boîtes énormes parce qu'il faut qu'elles correspondent au prix, et que voilà. Donc voilà, bah, je te soutiens beaucoup là-dedans. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Philippe?
Ben non, simplement, ben, il faut que les gens se rendent compte que les jeux, c'est pas évident. Ben, il faut savoir aller ailleurs que les jeux connus. Il faut essayer de découvrir ceux qui sont moins connus, mais qui méritent d'être connus.
Et tes jeux méritent d'être connus. Je voulais te demander d'ailleurs, est-ce que tu arrives à en vivre un peu? C'est un complément de salaire pour toi? Qu'est-ce que ça représente en fait, Ludarden?
Non, Ludarden, c'est un hobby. Je vis pas de ça, heureusement. Ça me rapporte, je perds pas de l'argent, ça me rapporte même. Et bon, au niveau argent, mais aussi ça rapporte au niveau humain, au niveau de tout. Voilà. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles, je passe un week-end super agréable avec des gens super sympas. Ça vaut aussi.
C'est ça aussi le monde du jeu, quoi. On n'est pas, on n'arrive pas tous à en vivre, mais en tout cas, on passe des bons moments. Et puis, si toi, ça te fait un complément de salaire, c'est parfait. Tu avais autre chose à ajouter?
Non, rien, ça va.
Ok, écoute, je te remercie beaucoup Philippe pour cette deuxième interview. Voilà, nos auditeurs pourront enfin t'entendre, je l'espère. Et puis, merci beaucoup et bonne continuation sur le Salon de Bruxelles. Au revoir.
Ah, merci Cyrus.